Vous allez entendre un message de William Branham intitulé Démonologie, volume 3, Les esprits séducteurs, prêché à Jeffersonville, Indiana, USA, le 24 juillet 1955. Bonjour mes amis, je suis heureux d'être ici ce matin et sachant que nous voyons tous ici, croyons que le Seigneur est avec nous aujourd'hui, nous donnons un peu d'ombre, afin que ce ne soit pas si chaud dans le tabernacle pour le service de ce matin. Et maintenant, les enfants ont-ils, est-ce que les enfants ont été envoyés dans leur classe? J'ai vu quelques petits hommes et je me suis demandé s'ils avaient renvoyé les classes dans leurs autres places, dans leur salle d'école du dimanche. Maintenant, priez pour moi. J'avais une grande décision à prendre hier soir et je vais devoir la prendre aujourd'hui. Que l'Église se mette en prière. J'ai une réunion qui s'en vient sur la ligne du rideau de fer en Allemagne et c'est un peu délicat. Aussi, priez pour moi. Et ainsi, nous pouvons commencer immédiatement dans ce grand stade de cricket en Allemagne. Hitler l'a fait bâtir juste avant la guerre, une belle grosse place pouvant asseoir 8000 personnes. Nous pouvons l'avoir pour 10 soirées de suite. Et ainsi, nous espérons commencer là immédiatement. Et alors, en Alsace et Lorraine, France, après, et alors à Berlin, et revenir, je veux dire Berlin entre les deux, en France. Alors, nous revenons, le Seigneur voulant, pour une convention à Chicago. Elle commence, je crois, le 5, le 6, 7, 8 et 9. C'est ma part à Chicago, à la convention de l'Église suédoise. Et alors, ils sont, Monsieur Bosé et quelques-uns d'entre vous, des environs de Chicago. Ils ont une convention qui doit débuter cette semaine, commençant le 1er août ou le 1er de septembre. C'est en Suède. Je suis si heureux de savoir qu'ils ont voté pour que je vienne. Et c'était unanime à 100%. J'étais heureux de cela. Mais maintenant, je dois aller là ou venir ici. Priez le Seigneur qu'il me guide à la place exacte où il y aura le plus d'âmes de sauver et le mieux sera fait pour le royaume de Dieu. Maintenant, ils ont une convention là-bas et eux en Suède et ils ont dit que nous aurions 35 000 personnes pour commencer à la convention et plusieurs d'entre eux des non-sauvés. Et alors ici en Allemagne, ils ont un stade qui contient 8000 personnes assises. Naturellement, en Suisse, d'où nous arrivons, ils ont eu une réunion merveilleuse et plusieurs d'entre vous n'en ont pas encore entendu parler probablement. Le Seigneur nous a bénis puissamment. Nous avons eu 50 000 convertis en 5 soirs à Zurich en Suisse. Et aussi le frère Jack Schuller, plusieurs d'entre vous le connaissent, il est méthodiste, le garçon de ce bon vieux Bob Schuller. Ils sont à Belfast maintenant et ils disent qu'ils sont en train de tourner la ville à l'envers là-bas pour l'Évangile. C'est même mieux que lorsque Billy Graham a eu ses réunions. Jacques est un très gentil jeune homme, plein de zèle et d'amour. Et il est juste si sincère dans cela que je crois qu'il est un grand serviteur du Seigneur. Priez pour le frère Schuller. Et il y a Jacques Schuller et Jack MacArthur aussi est avec lui. Et frère Jack MacArthur est aussi un grand prédicateur. Et ils ont une église. Il dit qu'ils ont le plus grand réveil jamais vu en Irlande. Aussi nous sommes priés pour eux chaque jour, pour ces hommes. Ce sont deux jeunes hommes près de la quarantaine, je suppose, ou moins, avec leur famille et ainsi de suite, de solides prédicateurs de l'Évangile, et nous les aimons. Et maintenant, je prie que vous ne m'oubliez pas, que Dieu me permettra de prendre la bonne décision immédiatement. Il y a des moments où vous ne savez de quel côté vous tournez. Avez-vous déjà été dans une telle situation? Je crois que Paul se trouva dans ce cas une fois, n'est-ce pas? Entre deux bons chemins, et pendant qu'il s'en allait, quoi, il vit un ange dans une vision qui lui dit, « Viens en Macédoine !» Ainsi le Seigneur a encore son ange, n'est-ce pas? Si je peux juste être assez humble dans mon cœur à ce sujet comme Paul l'était. Et maintenant ce soir, rappelez-vous le service de l'Évangile ici au tabernacle, tout le monde vient. Vous de Louisville, je parlerai à l'église de la porte ouverte ce soir, pendant une couple d'heures, ce qui veut dire de 7h30 à 9h30 chez frère Cobbles. J'étais pour venir ici deux fois, et alors il est tellement gentil, Il a appelé deux fois. Et frère Cobbles, il est un très bon frère, un gentilhomme. Je suis sûr que vous le connaissez, un frère très bien, et je pouvais difficilement lui refuser. Et prier, par-dessus tout, prier. Et prier que Dieu fasse que nous prenions la bonne décision. Maintenant, avant que nous commencions le message évangélique, nous avons un matin, nous allons consacrer les petits-enfants. Et j'ai un petit bout d'homme ici à consacrer aussi au Seigneur. Maintenant, plusieurs fois, dans plusieurs églises, pouvez-vous m'entendre là-bas au fond? Si vous pouvez, c'est très bien. Ces éventails ici, on ne peut s'entendre soi-même. Non, non, c'est bien, je craindrais de périr sans cela. Ainsi, aussi les petits-enfants, quelquefois ils les aspergent dans l'église, lorsqu'ils ne sont que de tout petits bébés. Et naturellement, cela vient de l'église catholique, en baptisant les petits-enfants, les baptisants, comme ils appellent cela, lorsqu'ils sont tout petits. L'église méthodiste a parlé de cela, le baptême des enfants, et plusieurs, et je crois plusieurs autres. Je crois que c'est la différence entre les nazaréens et les anciens méthodistes. C'était le baptême des enfants et alors la petite séparation et tout. Mais quoi qu'il en soit, je ne crois pas que cela ait tellement d'importance. Parce que après tout, je crois qu'au calvaire, cela fut très bien démontré à tous, car Jésus mourut pour sauver les petits-enfants et sauver le monde. Et le petit-enfant, peu importe la sorte de parent qu'il a, des grands pécheurs, cela ne fera aucune différence. Car le sang de Jésus-Christ le purifie, vous voyez? Et c'est l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Ce bébé ne peut se repentir. Il ne sait pas de quoi se repentir. Il n'a aucune raison personnelle d'être ici. Il ne peut vous dire pourquoi il est ici. Mais Dieu l'envoya ici. Et le sang de Jésus-Christ l'a lavé dès son arrivée dans le monde. Et c'est pour jusqu'à l'âge de raison. Alors il connaîtra le bien et le mal. Et alors, pour ce qu'il fait, il doit se repentir, pour ce qu'il sait être mal. C'est vrai. Ainsi, quelques gens les aspergent et pensent qu'ils n'iront pas au ciel. Et il y a un enseignement qui dit, si le bébé est né de parents ayant le Saint-Esprit, bien le bébé ira au ciel. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a rien de plus. Le bébé n'est plus tout simplement. C'est strictement une erreur. Quelle différence la fait-il que ce soit des parents avec le Saint-Esprit? C'est par un désir sexuel, et le bébé est né de la même manière. Ainsi, c'est tout, né dans le péché, formé dans l'iniquité, venant au monde en disant des mensonges. Cela, c'est le terme scripturaire. Aussi, et alors, le sang de Jésus-Christ purifie et fait une expiation pour cet enfant. S'il meurt, il ira parfaitement et directement dans la présence de Dieu, s'il était né des parents les plus pécheurs du monde. Jusqu'à ce qu'il ait l'âge de raison, connaissant le bien et le mal, et alors ce qu'il fait après cela, il doit être pardonné pour cela. Il se doit d'avoir son propre repentir après cela. Mais pendant qu'il est un bébé, maintenant la manière que nous essayons de faire ici, au tabernacle, c'est la seule place dans le monde où je vais et je prêche la doctrine, c'est ici au tabernacle parce que c'est notre église. Et nous prêchons la doctrine ici pour garder les gens dans une ligne. D'autres hommes dans leurs églises, ils prêchent ce qu'ils croient, et ils sont mes frères, et nous pouvons être différents un peu, mais nous sommes toujours frères quand même. Mais dans le tabernacle ici, nous prêchons ce que nous croyons être la doctrine scripturaire. Et là, nous voyons la consécration des enfants, ce que nous appelons une dédicace. Le seul temps dans la Bible que nous pouvons trouver dans le Nouveau Testament, où les petits-enfants ont eu quelque chose à faire, où Christ fut mêlé à une cérémonie, c'était quand il les prit dans ses bras, posa ses mains sur eux et les bénit, disant, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Maintenant, nous devons, comme nous le comprenons, continuer le travail qu'il est venu accomplir. Sa mort au calvaire, il était avec nous, et il vint de Dieu dans le monde, retourna du monde à Dieu, et revint encore sous la forme du Saint-Esprit. Et il est avec nous, en nous, jusqu'à la fin du monde, poursuivant dans son Église la même œuvre que lorsqu'il était ici sur la terre. Et à cause de cela, nous amenons nos enfants les uns aux autres, aux ministres, et ils prient sur eux, leur imposent les mains et les consacrent à Dieu. Une simple petite cérémonie pour montrer que nous apprécions ce que le Seigneur fait pour nous et les petits-enfants. Maintenant, si vos petits ont été aspergés, ou quelle que soit la manière de votre église, alors nous n'avons rien à dire contre cela, c'est bien. Mais scripturairement, nous ne trouvons qu'un endroit, c'est où Jésus les a bénis lui-même. Je dirais cela, le Seigneur voulant, dans la parole ici. Nous trouvons dans Saint Luc, je crois que c'est dans le 10e chapitre, commençant au 13e verset. Marc chapitre 10, verset 13, note du traducteur. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. N'est-ce pas aimable? Il dit, maintenant laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il les prit dans ses bras et les bénit. Maintenant, comme nous aimerions ce matin, si nous avions Jésus assis en personne sur l'estrade et dire, « Seigneur, voudrais-tu bénir mon enfant ?» Oh, ce que ce serait pour nos yeux humains et notre cœur désirant ardemment voir cela. Mais il est ici de toute manière, car il nous a donné pour mission de le faire, et comme nous l'avons fait, aussi il l'a reconnu. Nous recevons ceux qui l'ont envoyé, nous recevons celui qui l'a envoyé. Vous voyez ? Aussi il est ici ce matin. Et si Sir Gertie veut s'avancer au piano et jouer notre vieux chant que nous avions l'habitude de chanter il y a longtemps, amenez les petits à Jésus. Je crois que c'est dans le livre quelque part, je ne suis pas certain. Amenez les tout petits à Jésus. Et si vous avez un bébé, un petit bébé qui n'a pas été consacré et que vous voulez le consacrer ce matin, bien, nous serons heureux de le faire. Et y a-t-il des ministres dans l'édifice? Des prédicateurs qui voudraient simplement monter ici, se tenir avec nous pendant que nous consacrons les enfants au Seigneur. Nous serons heureux de vous avoir ici. Très bien, c'est dans le livre là. Pourriez-vous le trouver là, frère Neville? N'est-ce pas là? Très bien, combien le connaissent? Amenez-les. Ce n'est pas là, très bien. Chantons-le maintenant, tout le monde ensemble pendant que les mères amènent leurs bébés. C'est bien. Amenez-les, amenez-les. Amenez-les des champs du péché, amenez-les, amenez-les, amenez-les ces petits à Jésus. Amenez-les, amenez-les, amenez-les des champs du péché, amenez-les ces petits à Jésus. Pouvons-nous incliner nos têtes un moment? Notre Père Céleste, se tenant autour de l'autel ce matin, quelques mères et quelques pères tenant dans leurs bras leurs petits rejetons, que tu leur as gracieusement donné. Ils sont si reconnaissants pour cela, Seigneur. Ils te les amènent à l'autel ce matin, dans la maison de Dieu, pour les consacrer, te donner leur petite vie que tu leur as donnée. Et nous prions, ô Dieu, que tu nourriras et béniras chacun d'eux. Dirige-les, et puisse les anges gardiens de Dieu veiller sur chacun d'eux. Donne-leur une longue vie heureuse et joyeuse, puissent-ils grandir pour être les femmes et les hommes de Dieu de demain, s'il y a un demain, s'il y a un demain. Dieu, nous prions que tu suscites des prédicateurs et des prophètes et des enseignants dans ce groupe de bébés qui est autour de l'autel ce matin, et que lorsque nous serons vieux et ne pourrons pas aller plus loin, que quelqu'un nous amène d'une place à l'autre, que nous puissions nous tenir debout et entendre prêcher l'Évangile par ces jeunes qui sont ici aujourd'hui. Accorde-le, Seigneur, et en ce jour glorieux où tout sera fini, que nos vies se termineront, ses parents autour de l'autel, puissions-nous être comme Jacob autrefois, quand il bénit tous ses enfants et leur dit ce que leur fin serait dans les derniers jours. Alors, levant les yeux, dire, « Vous savez, je vais être réuni avec mon peuple. » Et par un jour glorieux, lui et tous ses rejetons seront réunis ensemble dans un meilleur pays. Ce n'est pas surprenant que Balaam dit que ma fin dernière soit comme la sienne. Dieu, je prie que tu accordes ces bénédictions aux parents. Et maintenant, pendant que nous allons imposer les mains sur eux, que tu as fait cela si merveilleux et humble, Seigneur, pour que nous, les hommes de cette terre, puissions avoir le privilège de bénir les petits-enfants en ton nom. Et sachant cela, que ce que nous demandons nous est accordé, comme nous allons pour les bénir, puisse Jésus, le personnage invisible, l'omnipotent, se tenir là et bénir chaque enfant pendant que nous posons nos mains sur eux et les lui offrons, car nous le demandons en son nom. Amen. Frère Branham commence la consécration des bébés, espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Dans un petit réduit tout là-bas dans le Grand Nord, tu me promis cet enfant. Père, puisse tes bénédictions reposer sur lui. Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu. Puisse ta vie être une bénédiction. Puisses-tu être un prophète, Joseph. Puisse la grâce de Dieu demeurer avec toi et puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, toujours te bénir et faire de ta vie une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, je le bénis. Amen. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Vous aimez les petits-enfants? Une chose au sujet de ces petits-enfants. Chaque maman veut que son enfant soit béni. Maintenant, c'est comme cela que notre Père Céleste est envers nous, les adultes, ce matin. Il veut que chacun de nous soit béni. Il nous présente une certaine chose, il fait juste nous la donner, comme pour dire, « Voici, je veux que tu sois béni, mon enfant. N'est-il pas merveilleux? Aussi, nous pouvons apprécier un bon Père Céleste comme cela. » Maintenant, dans la bénédiction des petits-enfants, savez-vous, je viens juste de lire ici, dans les Écritures, l'autre jour, quelque part par ici, c'était dans l'Ancien Testament, qu'une grande chose que j'ai certainement apprécié lire, c'est exactement ici, et Nathan dit à David, « Fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. » Vous voyez, « Fais ce qui est dans ton cœur. » Et plusieurs fois que j'ai trouvé ceci, mes amis chrétiens, que j'ai dit des choses sans savoir ce que j'allais dire, et découvrir que cela s'accomplissait. Qu'en dites-vous? Il fut dit une fois, Jésus descendit de la montagne, il vit un arbre qui n'avait rien, seulement des feuilles. Il n'y avait pas de fruits, et il dit, « Aucun homme ne mangera de ton fruit à l'avenir. » Et le jour suivant, passant par là, les apôtres virent les feuilles desséchées. Il dit, « Voyez avec quelle rapidité l'arbre a séché. » Jésus dit, « Ayez foi en Dieu, car quoi que ce soit que vous désiriez, quand vous priez, croyez que vous le recevez et vous l'aurez. Et quoi que vous disiez, vous aurez ce que vous dites. » Pensez à cela. Oh, et peut-être qu'aujourd'hui, le grand Saint-Esprit de Dieu qui se tient ici à l'autel, vous dites, bien, cela n'a pas besoin d'être décoré, cela n'a pas d'être une grande place élaborée. Jacob ramassa une pierre une fois et posa sa tête dessus. Et c'est encore reconnu aujourd'hui comme la pierre du trône des trônes. Mais les grands hommes de la terre apportent encore cette pierre quand le roi doit être intronisé sur cette pierre. Seulement une vieille pierre dans le champ. Bethel était seulement un amoncellement de pierres mises les unes sur les autres et cela devint la maison de Dieu, la place où il habite. Jacob dit, ce n'est rien moins que la maison de Dieu, juste un amoncellement de pierres mises les unes sur les autres. Ça ne prend pas un grand endroit élaboré, cela prend la simplicité et la foi pour croire. C'est cela que ça prend, c'est ce qui le fait. Maintenant, sachant que le temps file rapidement, nous allons essayer de ne pas vous garder trop longtemps, sachant qu'il fait chaud et que l'église est bondée. Aussi, je ne vous parlerai que quelques moments ce matin, sur un petit sujet ici qui pourrait, je crois que ce sera une aide pour vous. Et maintenant, avant de quitter la maison, j'ai jeté sur le papier 3 ou 4 petites choses. Je me dis, je vais attendre et voir ce que le Seigneur voudrait que je dise lorsque j'arriverai ici. J'ai écrit environ 6 petites choses ici, de petits sujets. J'en ai écrit un et l'ai glissé dans ma poche comme ceci. J'ai pensé, bien, lorsque je vais arriver à la chaire, peut-être qu'il me dira sur quoi parler. Maintenant, je suis juste aussi perplexe que j'étais là-bas. Aussi, de toute manière, je lisais une écriture ici que le Seigneur nous aide à la comprendre. Saint Luc, chapitre 14, et nous commencerons au verset 31 du 14e chapitre de Saint-Luc. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous, maintenant je veux que vous surveilliez attentivement. Maintenant, premièrement, il dit, c'est une parabole, il dit, maintenant il y a un roi qui s'en vient et il a 20 000 soldats, et ce roi va le rencontrer, il n'a que 10 000 soldats. Ainsi, premièrement, il s'assied, se demande s'il est prêt ou s'il peut le faire ou non. C'est bien. D'entre vous, ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Voyez-vous? Maintenant, puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à cette parole. Maintenant, nous inclinerons nos têtes pour un moment. Notre Père Céleste, toi qui connais toutes choses, et ne regarde pas à la personne de l'homme, car qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu fis l'homme et il est juste comme la fleur des champs. Aujourd'hui il est très beau et demain il est coupé, jeté dans le four et détruit. Et je te prie, Dieu, d'être miséricordieux envers nous aujourd'hui et permets à chacun de faire son inventaire aujourd'hui. Nous sommes ici comme dans la maison de correction. Nous sommes ici pour apprendre et savoir comment vivre. Et fais que cela se présente dans ta parole aujourd'hui. Ô éternel Dieu, plusieurs de tes enfants sont rassemblés ici, et plusieurs d'entre eux sont tes enfants depuis des années. Mais en cette qualité, nous revenons tous à la maison de Dieu pour apprendre et pour connaître. Et moi, ton serviteur, désire connaître plus de toi. Et je prie que tu apporteras l'inspiration de l'Évangile sur chacun de nous et sur ton serviteur, et que ta présence et ton inspiration sur nous dans cet édifice seront si grandes aujourd'hui que nous partirons avec dans nos cœurs le désir de mieux te servir. Qu'il nous aura été profitable d'être ici. Ô miséricordieux Dieu, accorde ces bénédictions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Maintenant, puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la parole que nous avons lue. Je veux prendre un texte ce matin. C'est les esprits séducteurs, ou la parole de Dieu. Maintenant, c'est plutôt un sujet étrange, mais les choses étant ce qu'elles sont dans le tabernacle, et mercredi dernier, dimanche matin passé, j'ai parlé d'un petit jubilé de l'Évangile. Et mercredi dernier, j'ai parlé sur la femme qui avait les drachmes sur sa tête, où elle avait perdu une de ses pièces, et elle balayait la maison, essayant de la trouver avant que son mari revienne. Et j'en suis venu à découvrir que cette femme était du type oriental, et elle représentait l'Église, et un anneau de mariage n'était pas porté au doigt, il était porté sur la tête, composé de 9 pièces d'argent à l'intérieur. Et lorsqu'une femme devenait une prostituée, ils enlevaient une pièce d'argent, ce qui démontrait qu'elle était une prostituée. Et ainsi, cette femme avait perdu une de ses pièces. Pas une prostituée, mais son mari était parti, et elle essayait de se dépêcher de trouver cette pièce pour la remettre dans son anneau de tête. Car quand son mari reviendrait, il penserait qu'elle avait été surprise en prostitution, et cela voudrait dire la perte de son foyer, et ainsi de suite. Et j'ai appliqué cela pendant quelques moments à l'Église. Elle a perdu beaucoup de grandes choses, et c'est le temps pour le Père de revenir. Alors, nous devons les chercher. Et maintenant, sachant dans l'Église et notre tabernacle, et je veux parler sur les esprits séducteurs, ce qui serait réellement nommé démonologie. Vous entendez tellement au sujet des démons de ces jours-ci, mais vous entendez tellement peu sur comment vous débarrasser d'eux. Nous sommes bien avertis qu'il y a des démons, mais la chose suivante, c'est comment les éviter. Et maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons l'occasion de traiter avec ces choses appelées démons, et de les rencontrer sur l'estrade et dans notre marche journalière. Et c'est pourquoi je voudrais regarder les Écritures ce matin et trouver exactement ce que sont ces choses. Maintenant, nous avons appliqué cela dans un service de guérison. Toujours du côté guérison. Cancer, tumeur, cataracte, tuberculose, toutes ces choses ne sont pas naturelles. Elles sont surnaturelles. Elles sont des démons. L'Écriture l'explique clairement. Mais ce sont des démons dans le corps, avec des grosseurs comme le cancer. Cela a la vie, et la vie de cela est un démon. C'est la même chose pour la cataracte, la marque de la tuberculose et d'autres maladies. Ce sont des démons. C'est dans la forme physique. Maintenant, ce matin, nous allons parler des démons sous forme spirituelle dans l'âme. Ils sont dans l'âme comme dans le corps. Et nous sommes obligés d'admettre que nous les voyons dans le corps des gens comme cancer et différentes maladies qui sont dans le corps humain. Tout récemment, même le cancer a été déclaré maladie de quatrième dimension, qui est d'une autre dimension. Certainement, c'est la démonologie. Chaque maladie est de la quatrième dimension, son commencement. Maintenant, mais le cancer dans le corps ou le cancer dans l'âme, le démon peut venir dans l'une ou l'autre place. Maintenant, il y a plusieurs fois, et plusieurs personnes avec de bonnes pensées et de bonnes gens qui essayent plusieurs fois de s'appuyer sur certaines petites théologies qu'ils ont ou quelque chose qui leur a été enseigné depuis leur jeune âge et qui trouvent toujours cela dans leur être, dans leur âme, qu'ils ont encore quelque chose qui n'est pas correct. Vous, plusieurs sont ici ce matin, il n'y a pas de doute, où vous trouvez des chrétiens rassemblés, vous trouvez des gens qui ont ces esprits en eux, qu'ils, c'est indésirable, ils ne les veulent pas. Ils disent, si je pouvais seulement cesser de mentir, si je pouvais arrêter de convoiter, si je pouvais arrêter ceci ou cela, maintenant ce sont des démons, et maintenant ils viennent sous la forme de la religion très souvent. Mais aujourd'hui c'est l'école du dimanche, c'est un temps d'enseignement, regardons un peu à cela. Maintenant ils viennent sous la forme de la religion très souvent. Maintenant dans les Écritures une fois, il y avait un homme du nom de Josaphat, un grand homme, un homme religieux. Il alla voir un autre roi qui était le roi d'Israël. Et lui, Josaphat, était le roi de Juda. Il se rendit voir Akab, le roi d'Israël. Ils devinrent très concernés ensemble et firent une alliance l'un avec l'autre pour aller combattre à Ramoth-Galaad. Et ils le firent sans avoir prié premièrement. Oh, si les gens pouvaient seulement réaliser. C'est pour cela que je viens ce matin et vous demande de vous souvenir de moi car je pars outre-mer. Par-dessus tout, prier. Quelqu'un est venu l'autre jour et a dit, « Frère Branham, pensez-vous que c'est faux de faire une certaine chose ?» Je dis, « Pourquoi questionnez-vous à ce sujet » Voyez-vous ? S'il y a une question dans votre esprit, laissez cela, ne le faites pas du tout. Simplement, restez avec cela. Lorsque vous commencez à faire une chose et qu'il y a une question dans votre esprit à savoir si c'est correct ou pas, éloignez-vous-en, ne le faites pas du tout. Alors vous savez que vous êtes correct. Maintenant, toutes choses se doivent d'être considérées par la prière, premièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses s'y ajouteront. Je suis positivement certain ce matin, si les hommes et les femmes pouvaient seulement être dans la position où leur âme, leurs pensées, leurs attitudes seraient parfaites à la vue de Dieu, ce serait une des plus puissantes églises qui ait jamais existé. Surveillez pendant un moment le côté physique. Nous avons ce que nous appelons un détecteur de mensonges. Vous pouvez l'attacher à votre poignet autour de votre tête et vous faire votre possible pour faire paraître un mensonge comme la vérité. Il enregistrera négatif chaque fois. Car un humain n'est pas fait pour mentir. Mentir est une chose dure et fourbe, une mauvaise chose. J'aimerais mieux avoir un ivrogne avec moi qu'un menteur n'importe quand. Voyez, un menteur. Et votre corps n'a pas été fait pour mentir. Peu importe combien profond vous êtes dans le péché, vous êtes toujours un fils de Dieu en défection. Le plus grand pécheur qu'il y a dans cette ville, il n'était pas dans la volonté de Dieu que vous soyez pécheur. Il voulait que vous soyez son fils ou sa fille. Vous avez été fait à son image, mais le péché vous a rendu comme cela. Et peu importe combien vous essayez d'imiter, essayez de faire semblant qu'un mensonge est la vérité, ils ont un instrument scientifique pour prouver que c'est faux. Vous pouvez le dire avec toute l'innocence que vous voulez, cela enregistrera toujours négatif. Parce qu'il y a un subconscient dans l'être humain. Et ce subconscient connaît ce qu'est la vérité. Et peu importe ce que vous dites ici, ce subconscient sait que c'est un mensonge. Et cela enregistrera le subconscient. Par conséquent, si un homme ou une femme pouvait jamais amener leurs pensées, leurs témoignages et leur vie si remplis de Dieu, amen, jusqu'à ce que la voix avec le Saint-Esprit sera parfaitement une avec Dieu, qu'est-ce qui arriverait? Si l'homme et la femme pouvaient venir au point où avec la liberté dans leur cœur, avec la foi dans le tréfonds de leur âme, beaucoup de gens viennent à l'autel afin qu'on prie pour eux. Ils ont une foi intellectuelle.
Ils confessent leurs péchés et se joignent à une église par la foi intellectuelle. Ils le croient dans leur esprit. Ils le croient parce qu'ils l'ont entendu. Ils le croient parce qu'ils savent que c'est la meilleure chose à faire. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu regarde. Il ne regarde pas votre foi intellectuelle. Il regarde à votre cœur ou à l'intérieur Dieu. Et quand cela vient du cœur, toutes choses sont possibles alors. Votre confession est semblable à votre vie. Votre vie parle aussi fort que votre confession. Mais quand votre confession dit une chose et que votre vie en démontre une autre, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est parce que vous avez une foi intellectuelle et non une foi venant de votre cœur. Et cela montre cet extérieur ici. Il y a une connaissance de Dieu, mais à l'intérieur ici, il y a un démon qui doute. Je crois dans la guérison divine, mais ce n'est pas pour moi, voyez-vous. Ah, cela pourrait être ainsi, mais je n'y crois pas. Prenez-la. À l'extérieur, vous dites oui. À l'intérieur, votre conscience dit non. Cette chose scientifique prouverait que c'était la vérité. Prouvez-la. Remarquez, quand ces rois, avant de partir, ils auraient dû, avant que Josaphat fasse une alliance avec Achab, il aurait dû dire premièrement, prions et voyons ce qu'est la volonté de Dieu. Donnez-moi un prédicateur, donnez-moi un chrétien, donnez-moi une ménagère qui est chrétienne, donnez-moi un fermier ou un ouvrier de manufacture qui mettra Dieu premier dans toute chose, et je vous montrerai un homme qui aura du succès en dépit de tout ce que le démon pourra mettre sur lui. Il cherche Dieu en premier. Nous devons avoir premièrement, mais ils ne le firent pas. Ils furent tout embrouillés, parce qu'Achab avait un éblouissant grand royaume, et il avait fait une grande quantité de choses, et il avait ses grands raffinements, et son or et son argent, et avait été un homme à grand succès, mais encore un incrédule. Et c'est là que le monde se trouve aujourd'hui. C'est là que se tient l'Amérique aujourd'hui. C'est là que se tiennent les églises aujourd'hui. Nous bâtissons ce qu'il y a de mieux en église. Nous avons eu quelques-uns des gens les mieux éduqués que nous ayons jamais eus. Nous avons enseigné la meilleure théologie et ainsi de suite. Nous avons appris à chanter comme des anges. Mais encore, il y a une faiblesse quelque part. Il y a une faiblesse. Parce qu'ils sont partis dans des doctrines d'hommes et des esprits séducteurs au lieu de revenir à la parole de Dieu. Ils essayent de faire les choses comme dans le monde. Ils ont essayé de mettre de brillantes lumières sur cela comme à Hollywood. Ici, l'autre jour, une fameuse dénomination des hommes du plein évangile à Kansas City, où je vous demande pardon, à Denver, à la convention, ils ont bâti une église $1 million. Et des missionnaires qui attendent un 50 sous de cette même dénomination afin d'aller porter l'évangile aux païens. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une église avec un esprit missionnaire, envoyé de Dieu, avec un réveil né du Saint-Esprit, où ils auront le zèle de Dieu pour pousser jusque dans la jeûne, tout là-bas, et faire quelque chose pour Dieu, au lieu de bâtir de belles grosses églises et essayer d'éblouir le voisin. J'aimerais mieux adorer dans une mission qui serait dans un bar désaffecté et avoir la liberté du Saint-Esprit et l'amour de Dieu brûlant dans les cœurs que d'être assis dans la plus grande cathédrale qui ait jamais existé et d'être cloué à terre par des doctrines d'hommes et des dogmes. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil vibrant et de revenir à la vérité, revenir à la parole de Dieu de nouveau. Maintenant, lorsqu'ils partirent là-bas, après un certain temps, Josaphat se ressaisit. Il dit, n'avons-nous bien, consultons le Seigneur à ce sujet. Il dit, tout est bien. Achab l'a fait, il a envoyé chercher 400 prédicateurs bien entraînés. Il les amena là et dit, ce sont tous des prophètes. Et ainsi, ils vinrent dans leur enchantement et commencèrent à invoquer. Ils dirent, oui. Vous pouvez y aller en paix, le Seigneur est avec vous. Et alors, après que presque 400 aient témoigné qu'ils devraient aller en paix, encore Josaphat sachant, le voyez-vous, au fond du cœur de cet homme juste, il y a quelque chose qui lui dit qu'il y avait un manque dans cette équipée quelque part. Quelque chose n'allait pas. Achab dit, maintenant nous en avons 400 ici, et d'un seul accord qui disent, allez, le Seigneur est avec vous. Mais Josaphat dit, n'en as-tu pas un de plus? Il dit, bien, qu'avons-nous besoin d'un de plus? après en avoir eu 400 des mieux éduqués du pays, ils disent tous, allez-y. C'était intellectuel. Mais au fond du cœur de Josaphat, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Maintenant, il dit, nous en avons un de plus, c'est Miché, mais je le hais. Il dit toujours quelque chose de mauvais à mon sujet, et se prononçant toujours au moment où il ne faudrait pas, et il abaisse les églises et tout le reste. Il dit, je le hais. Il dit, allez le chercher, voyons ce qu'il dira. Et quand Miché arriva, ils dirent, maintenant regarde, tu dis la même chose que les autres. Il dit, je dirai seulement, écoutez cela, je ne dirai que ce que Dieu dit. Amen. Peu importe ce que vos prophètes ont dit, et ce que ceci dit, et ce que votre église dit, et ce qu'ils disent, je dirai ce que Dieu dit. Amen. Dieu l'a mis sur mes lèvres, et je dirai ce que Dieu a dit. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de quelques Michées de plus qui diront ce que Dieu dit. Remarquez, ainsi ils l'amenèrent là et il dit, donnez-moi la nuit. Ainsi cette nuit-là, Dieu le rencontra et il revint le matin suivant. Quand les deux rois se tinrent dans la porte, il dit, allez-y. Il dit, allez-y. Mais il dit, j'ai vu Israël dispersé comme des brebis sans berger. Ainsi, un prédicateur, très bien vêtu, s'approcha, le frappa sur la bouche et dit, « Quelle direction l'Esprit de Dieu prit-il lorsqu'il sortit de moi ?» Il dit, « Vous le découvrirez à votre retour. Entendez-le. » Il dit, « Écoutez ceci. » Il dit, « Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes 400 et tu es tout seul. » Mais Miché dit, « Je vais vous dire où se trouve votre trouble. » Amen. Il dit, « J'ai eu une vision. » Amen. Il dit, j'ai vu Dieu assis sur son trône, et j'ai vu les armées du ciel se tenant autour de lui, et nous savons que la parole de Dieu a maudit cet homme à cause de ce qu'il avait fait. Vous ne pouvez bénir ce que Dieu a maudit, pas plus que le démon peut maudire ce que Dieu a béni. C'est une affaire individuelle, peu importe combien vous êtes pauvre ou stupide, sans instruction ni éducation, ce que Dieu a béni est béni, et ce que Dieu a maudit est maudit. Il n'y a pas de différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Miché savait très bien que ce n'était pas le Seigneur qui était avec ses prédicateurs. Bien, qu'est-ce qui n'allait pas avec ses prédicateurs? Remarquez ce qu'ils firent. Ils étaient les mieux vêtus, ils étaient les mieux nourris, ils étaient venus ensemble dans leur soirée, et ainsi de suite, dans leur mariage, jusqu'à ce que la place de Dieu soit où ils ne connaissent que leur propre théologie. Et la Bible dit que Miché, lorsqu'il regardait la vision, a dit, Dieu a dit, qui pouvons-nous envoyer pour tromper Akab? Et un esprit de mensonge dit, je vais y aller et séduire Akab au moyen de ses prédicateurs pour amener Akab à aller là-bas afin d'accomplir la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens écoutent. Maintenant, l'école du dimanche, j'aime cela. Regardez, beaucoup de gens écoutent des esprits séducteurs au lieu de prendre la parole de Dieu. Les esprits sont dans le monde, ce sont des démons, et ils vont à certains endroits, et ils entrent dans l'homme. Ministres, ils entrent dans les membres de l'Église, ils entrent dans les bonnes gens, et ils les amènent dans l'erreur. Et ils disent des choses, et font des choses, et les enseignent, et ils pratiquent des choses contraires à la parole de Dieu. Aujourd'hui, des ministres dans leur congrégation permettent de jouer aux cartes dans leurs églises, plusieurs d'entre eux. Maintenant, ce n'est pas seulement chez les catholiques, des protestants le font aussi. Ce qu'ils essayent de faire, c'est quelque chose en remplacement. Ils essayent d'adopter de nouveaux plans, ils essayent d'adopter une nouvelle éducation qui prendrait la place du Saint-Esprit. Vous ne serez jamais capable de le faire. Peu importe combien votre homme est bien éduqué, je crois que c'est une bonne chose pour lui d'être bien éduqué. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit avec cela, son éducation ne lui vaudra rien. L'éducation ne prendra jamais le rôle de direction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Remarquez, au lieu de cela, ils ont adopté la poignée de main à cause de l'expérience que nous avions du temps passé. Aujourd'hui, l'Église est devenue moderne. Ils s'avancent et donnent la main droite de fraternité. Et c'est à peu de choses près leur manière de faire. Mais ça ne prendra jamais la place du banc des yeux enflés où les pécheurs se repentaient et se mettaient en ordre avec Dieu. Vrai! Aujourd'hui, ils essayent de remplacer le prélèvement de la dîme de Dieu. Ils essayent d'adopter quelque chose. Ils essayent de faire quelque chose de différent. Ils descendent et jouent bingo dans le sous-sol de l'église, jouent la loterie. La loterie ne prendra jamais la place du prélèvement de la dîme de Dieu. Des soupers, des ventes de couvertures, des pique-niques pour faire des fonds pour payer différentes dettes, ça ne prendra jamais la place du prélèvement des offrandes et de la dîme du Dieu éternel. Ça ne marchera jamais. Mais nous continuons à tenter de le faire. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des esprits séducteurs qui viennent, essayant de remplacer la parole de Dieu par quelque chose d'autre. Dieu n'a aucun substitut pour sa parole. Elle est éternelle et pour toujours. Dieu n'a rien pour substituer à la foi. La foi n'a pas de substitut. L'espérance ne prendra jamais la place de la foi. La foi est seule. Elle se tient seule. Ça ne prendra jamais là. L'espérance ne prendra jamais sa place. L'espérance est la substance des choses que nous espérons, l'espérance des choses que nous ne voyons pas, ou plutôt la foi est cela. Voyez-vous, l'espérance est une chose, la foi en est une autre. L'espérance espère en vue de, la foi l'a déjà. Une est la foi intellectuelle et l'autre est une révélation directe de Dieu. Ça ne prendra jamais sa place. Nous essayons, mais nous fabriquons tous ces substituts. Nous essayons de bâtir de grosses églises au lieu d'envoyer des missionnaires à un autre substitut. Jésus n'a jamais ordonné à personne pour bâtir des églises. Cela n'a jamais été ordonné dans la Bible. Nous faisons des séminaires, ils ont laissé cela remplacer les missionnaires. Jésus ne nous a jamais dit de bâtir des séminaires. C'est bien, l'éducation essayant de prendre la place, cela ne le fera jamais. La commission de Jésus était « Allez partout dans le monde et prêchez l'évangile à toute créature pour la fin des temps. » Ainsi, toutes les substitutions que nous aurons ne pourront remplacer l'original où ils ont une expérience, une substitution. J'ai eu mon premier mal de dent. J'ai dû faire enlever une dent. Ce matin, j'ai une fausse dent d'accrocher là. Je peux difficilement parler. Elle ne prendra jamais la place de la vraie dent. Non, monsieur. Oh, my. Vous pouvez prendre un homme et le vêtir, le faire avec du bois, de la craie, avec tout ce que vous voudrez, l'arranger au mieux. Il n'aura aucun sentiment, pas de conscience. Il ne prendra jamais la place d'un homme véritable. Pas plus qu'un simulacre de conversion qui s'avance et dit, j'ai adhéré à l'église, je vais essayer de faire mieux. Cela ne prendra jamais la place de la conversion à l'ancienne mode envoyée par Dieu. Une conversion par le Saint-Esprit qui fait qu'un homme est différent dans son cœur. Elle ne peut le faire car il n'y a aucune vie là-dedans. Il n'y a rien là pour donner la vie. Ici, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu l'artiste qui avait apporté ceci, un sculpteur. Je veux dire, celui qui a fait l'image de Moïse. Je ne puis me souvenir de son nom maintenant. C'est un artiste grec. Cela lui prit sa vie et lorsqu'il l'eut amené au point où il l'a vu si parfait, il devint si enthousiasmé à l'image de Moïse qu'il la frappa sur le genou et dit « Parle Moïse !» Il semblait si réel. Il était si bien rendu, si parfait qu'il ressemblait tellement à Moïse qu'à cette pensée, il le frappa avec le marteau pour lui donner une sensation. Qu'est-il arrivé à l'église? Peu importe ce que vous substituez, la grosseur de la congrégation que vous avez, avec quel charisme vous chantez vos chants, comment la congrégation s'habille, combien vous avez de ceci et de cela et de l'autre, vous pouvez frapper, battre n'importe quel d'entre eux. Cela ne prendra jamais la place de la vie jusqu'à ce que Christ vienne dans l'église sous la forme du Saint-Esprit et alors il donne une nouvelle expérience d'être né de nouveau. Cela ne prendra jamais la place de la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure seule. Michée avait la parole. Il savait qu'il avait la parole. Il avait la parole écrite. Il l'avait aussi en vision. Il savait ce que Dieu avait dit dans sa parole. Il savait ce que Dieu avait dit dans la vision. Cela se complétait. Il savait que c'était la vérité. Alors il n'était pas effrayé. Mais cet esprit séducteur, regardez ce qu'il a fait pour augmenter les membres de l'Église, pour faire de meilleurs membres. Il a baissé les barrières de l'ancien enseignement du Saint-Esprit. Il a permis à l'homme d'avoir des réunions sociales les uns avec les autres, dans les sous-sols, où ils auraient des jeux. Ceci n'aidera jamais à substituer la chambre haute où il priait pour avoir le Saint-Esprit. Ils permirent aux femmes de se réunir, de raconter des histoires et autres, de faire un paquet de stupidités qui n'ont rien d'intéressant. Ça ne prendra jamais la place des réunions de prière. Les femmes, la manière qu'elles sortent et qu'elles s'habillent aujourd'hui, c'est une disgrâce. J'ai entendu une remarque, Frère Neville a faite, il a dit, le pauvre peuple américain, il dit, ils ont envoyé tous leurs vêtements outre-mer, c'est vrai. Ils se promènent en sous-vêtements, c'est vrai, ils ont dû les donner aux missions, car les missionnaires, le peuple, les païens des autres pays les portent, ces gens s'en passent, il semble qu'ils aiment cela. Bien, je vous le dis, quelque chose a été perverti, et c'est la prédication de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les démons qui vous déshabillent. Il n'y a jamais eu personne dans la Bible qui déchira ses vêtements, si ce n'est l'homme qui était possédé des démons. Et il vient dans une forme douce aujourd'hui, comme étant sociable, comme étant bon, comme ce gars l'autre soir. C'est un temps plus frais, cela vous rafraîchira plus si vous enlevez vos habits. Les hommes marchant dans leur cour à moitié nus et les femmes pareillement. Pourquoi ? Vous en êtes au point qu'il n'y a pas plus de respect que les chiens en ont les uns pour les autres. Qu'y a-t-il ? Je n'essaye pas de vous blesser. J'essaye seulement de vous dire que c'est une possession de démons et que vous écoutez des esprits séducteurs qui vous disent « c'est très bien ». C'est un mensonge. Un grain de blé ne produira que du blé. Si vous êtes un chrétien, vous ne ferez pas cela. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Vous avez une foi intellectuelle et dites, Frère Branham, je crois la Bible. Votre vie dit que c'est faux. Amen. Les esprits séducteurs citent la parole de Dieu. Il savait où il se tenait. Michée le savait. Il avait la parole de Dieu. Il était un homme très impopulaire. Personne ne l'aimait, car il disait la vérité. Par contre, ils aimaient ses prédicateurs. Maintenant, une autre chose qui arrivait. Je pense et crois que tout homme qui a eu une expérience avec Dieu ou une femme est sujet à devenir un peu émotif. Je le crois seulement, c'est vrai. Mais vous savez quoi? Ils ont pris l'émotivité pour le baptême du Saint-Esprit. Ils ont simplement beaucoup de bruit et il n'y a rien là. Vivez aussi saintement que vous vivez bruyamment, alors vous serez correct. Les émotions sont bien. L'exercice corporel profite peu. Mais les esprits séducteurs ont pris le dessus dans le groupe de la sainteté. Et ils les ont amenés à simplement s'appuyer sur, parce qu'ils peuvent crier, ou parce qu'ils peuvent danser, parce qu'ils peuvent avoir des émotions. Ce vieil homme là-bas, le chef de ces prophètes ou prédicateurs, il était si certain d'être correct qu'il s'est fait une paire de cornes et dansa partout et fit un grand tumulte. Il allait pousser cette armée syrienne hors du pays. Mais c'était un mensonge. La parole de Dieu avait dit autre chose. Amen. Amen. Vous voyez, vous pouvez être émotif si vous avez la bonne sorte d'émotion derrière cela. La bonne sorte d'émotion dirigeant votre émotion. David dansa devant le Seigneur. Et sa femme a ri de lui, et Dieu regarda du ciel. Il dit, David, tu es un homme selon mon cœur. Mais son motif était bon, et sa vie était vraie derrière cela. Ainsi, le fait d'être émotif ne signifie pas que nous sommes sauvés. Le fait d'aller à l'église ne signifie pas que nous sommes sauvés. Ne croyez pas ces esprits séducteurs. Un esprit de Dieu véritable, une parole de Dieu vraie, est la vérité de Dieu, qui est la semence de Dieu, produira Dieu dans votre vie. Soyez pieux et saints. Dans un groupe de gens, nous trouvons, où les émotions, ainsi de suite, là arrive le bavardage, la médisance et autres choses qui ne sont pas de Dieu. Frère, c'est de l'acide sulfurique dans l'Église. C'est de la puissance de démons. L'esprit de l'homme et de la femme qui vient parmi eux essaye d'éloigner. Ceci n'est pas bien, ça n'est pas bien et ceci n'est pas bien. Si vous allez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne qui fait l'agitation qui n'est pas correcte. Dieu déteste la discorde parmi les frères. Soyez révérends, saints, aimez Dieu, restez avec lui. Et quand vous savez que votre vie est en ligne avec la Bible, avec pureté de cœur et de pensée, amour envers vos frères, faisant votre possible pour bâtir le royaume de Dieu et faire ces choses, vous habillant convenablement, vivant correctement, parlant comme il convient, allant aux bons endroits, alors vous pouvez avoir toutes les émotions que vous voulez et tout le monde le croira. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, alors il n'est plus bon à rien. Il est jeté et foulé aux pieds de l'homme. Si vous êtes du sel seulement, ce n'est pas bon. Mais si vous en avez la saveur, vous êtes salé et le monde sera assoiffé. Vous devenez salé, ils seront assoiffés. Oh my! Les esprits séducteurs avancent, des démons déguisés. Regardez, nous sommes dans les derniers jours, nous sommes à la fin des temps. Le monde est tout près d'être à son point culminant, comme un furoncle quelque part. Ça va exploser un de ces jours, et le bouchon va partir. C'est devenu obscène, il n'y a pas d'onguent pour guérir cela. Ils ont rejeté le sérum, ils ont rejeté le traitement. Vous prenez un furoncle qui jaillit ici, et que si vous ne prenez pas de pénicilline ou autre pour le détruire ou quelque chose d'autre, il va continuer à monter jusqu'à ce qu'il crève. C'est ce que le monde a fait. Il a commencé il n'y a pas longtemps à se laisser aller. Ils partirent avec de belles grosses idées, de faux esprits vinrent et commencèrent à dire aux gens ceci, cela et autre chose. Nous nous sommes divisés en 900 et quelques dénominations, chacune avec une vue différente. Ils disent, nous croyons cela, point final, c'est tout ce que nous croyons. Ils ne peuvent laisser entrer le Saint-Esprit, ils ne peuvent avoir l'autorité. Dieu a un groupe de gens qui peuvent crier, alors tout le monde devait crier. Il y en avait qui pouvaient parler en langue, alors tout le monde devait parler en langue. Ils furent tous comme cela, jusqu'à ce que cela devienne absolument contaminé par les esprits séducteurs. Des gens séducteurs pour avoir ces émotions, lorsque Dieu n'est pas là-dedans du tout. Alors ils partent et vont vivre n'importe comment, comme ils désirent vivre, et s'appellent chrétiens. Et le monde autour les regarde et dit, bien, regardez-les, je suis aussi bon qu'ils le sont. Comme je l'ai dit l'autre soir au sujet du porc, du pécheur, vous ne pouvez blâmer, un pécheur est un pécheur. N'essayez pas de le réformer, n'essayez pas de lui dire ceci, cela ou autre. Il est un pécheur pour commencer, il est un porc pour commencer. Il ne connaît pas la différence. S'il va au cinéma, et il y va le dimanche, et il va à la partie de bal, et il fait toutes ces choses, il est un pécheur pour commencer. Sa nature est comme le porc. Le vieux cochon plante son groin dans le tas de fumier, il mange tout le grain qui s'y trouve et tout le reste. Bien, c'est juste un cochon. Vous ne pouvez le blâmer, c'est un porc. Et c'est comme cela avec les pécheurs. Mais lorsque vous allez et vous appelez chrétien, et que vous mettez votre nez avec le sien, alors vous n'êtes pas mieux que lui, mais vous êtes pire. Sortez du milieu d'elle, sortez du monde, sortez, laissez Dieu, sortez. Comment faire pour sortir? Tellement de gens se demandent aujourd'hui, ils disent, bien frère Branham, comment faire pour sortir? Je sais que vous avez entendu beaucoup de théologie sur sortir. Beaucoup de gens se mettent en sueur, essayant de sortir. Beaucoup de gens viennent et disent, je vais faire un jeûne de 40 jours afin de pouvoir faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'un jeûne de 40 jours. Vous n'avez qu'à sortir du monde et de toutes ces choses de démons et de prendre la parole de Dieu dans votre cœur. Vous devez être enseigné comment le faire. Vous n'avez pas à le faire en sautant de haut en bas, pas plus que vous le faites par un jeûne de 40 jours. Vous le faites par un cœur abandonné au Dieu Tout-Puissant. Comme un petit bébé. J'ai remarqué un petit vieux bébé là-bas en arrière. Sa mère essayait de lui mettre son petit coupe-vent ce matin. Il voulait mettre son petit bras dans la manche. Il ne pouvait y mettre le bras. Il ne savait pas comment. Vous devez guider son petit bras. Il veut mettre son bras là-dedans, mais il ne fait que battre tout autour. Il n'arrive jamais à la manche. Il sait qu'il n'est pas dans la manche. Et vous aussi, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Quand vous continuez à médire, mentir et faire toutes sortes d'autres choses, vous ne pouvez être en ordre avec Dieu. Je me moque à combien d'églises vous appartenez jusqu'à ce que votre âme soit convertie. Frère, c'est l'ancienne mode. Mais cela va faire bouillir la soupe de haut en bas dans votre âme. C'est vrai. Essayez de mettre son bras dedans. Il a besoin de quelqu'un pour le guider dedans. Comment mettre son bras dedans? Alors, quand il met son bras dans son petit coupe-vent, il sait qu'il est correct. C'est comme cela avec tout nouveau-né chrétien. Lorsqu'il entre réellement en Dieu, Il surveille sa vie avec la parole de Dieu et il réalise qu'il est en ligne avec chaque parcelle. Il est patient, gentil, tranquille, débonnaire, puissant. Il a la foi, l'amour, la joie et la paix. Il n'est pas ballotté comme la mer. Il n'est pas inquiété par toutes les petites choses. Il ne saute pas ici et là comme un bouchon de bouteille sur la mer par grand vent. Il est en position. Son cœur est pur, ses pensées sont pures, ses choix sont bons, et il sait qu'il est en ligne avec la parole de Dieu. Tout l'enfer ne peut le bouger. Il est dirigé par la parole de Dieu. Il a l'amour divin, la pureté dans son cœur envers chaque homme et chaque femme. Il a, et les choses du monde sont mortes pour lui. Il ne les veut plus. Pourquoi ? Vous ne pourriez pas faire porter à une fille qui a le Saint-Esprit une paire de ces choses qui ont l'air immodestes et la faire sortir pour rien au monde. Non, monsieur. Maintenant, il n'est pas besoin d'aller lui dire qu'elle a tort, car elle ne vous croira pas, parce que c'est tout ce qu'elle connaît. C'est sa joie. La femme qui met ces petites choses pour sortir le soir, juste au moment où les hommes reviennent à la maison, elles me disent qu'elles coupent le gazon. Ainsi, elles me disent que c'est bien. Femme, je ne veux pas dire que vous êtes mauvaise, je ne veux pas dire que vous êtes immorale, mais vous ne réalisez pas, sœur, qu'un esprit impur a une emprise sur vous. Pourquoi le feriez-vous? Vous êtes assez intelligente pour savoir que ce n'est pas plus frais, c'est plus chaud. Il y a un esprit impur. Vous dites, vous voulez dire, moi, j'ai été à l'église. Nebuchadnezzar était un grand homme. Mais parce qu'il devint arrogant, Dieu mit en lui l'esprit d'un bœuf et lui fit manger de l'herbe pendant 7 ans et ses ongles poussèrent comme ceux de certaines femmes autour d'ici. C'est vrai. Et il fut possédé par le démon. Un homme fut possédé du démon et arracha ses vêtements. Il ne pouvait le vêtir. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des esprits séducteurs. Votre église le tolère. Votre prédicateur a peur de dire quoi que ce soit. Effrayé que vous ne payez plus votre dîme. C'est la raison, c'est le trouble. Mal, bonté, comment allez-vous prêcher à une bande de busards à moins que vous ne les convertissiez et les mettiez en ordre avec Dieu premièrement? Ils remettent leur nez dans les choses mortes tout le temps. Ce dont vous avez besoin, c'est un nettoyage et un réveil à l'ancienne mode. Un balayage d'une côte à l'autre et mettre chaque homme et chaque femme en ordre avec Dieu. Relâchez la pédale douce dans vos prédications. Amen. Et prêchez l'évangile. Dieu l'a dit. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Les gens peuvent sauter de haut en bas, crier toute la nuit, parler en langue, comme si on versait des poids sur une peau de vache sèche. Ressortir le matin suivant avec assez de tempérament pour combattre une scie circulaire. Aller à l'église et dire quelque chose qui diviserait l'église. Ce n'est rien dans le monde que des esprits séducteurs de démons. Vous voulez revenir à la parole où Dieu est pureté, sainteté. Amen. C'est vrai. Des esprits séducteurs citant la parole de Dieu. Il y avait un homme, il n'y a pas longtemps, une petite femme catholique. Dans le temps de sa ménopause, cela sortait de ses mains et de son front. Si un bon prédicateur avec le Saint-Esprit... Je pensais, cet homme avait une bouteille de ce liquide provenant des mains de cette femme, se promenait, oignant les gens avec cela. Ouh, miséricorde! C'est Antichrist! Je me moque si du sang sort de son nez ou de sa tête ou quoi, frère. Il n'y a aucun sang qui prenne la place de celui de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est le seul sang que je connaisse. De lui, il a pu couler d'une main et du vin de l'autre. Mais si vous l'employez de quelque manière de religion, c'est du diable. Voir comment des prédicateurs tombent dans des choses semblables. Ce dont nous avons besoin, c'est de revenir au livre guide, à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la vieille Bible bénie. Il dit, frère Branham, je crains de venir, j'ai peur de perdre ma joie. Que se passe-t-il? Vous ne savez pas ce que c'est la joie. Et je dis, je ne condamne pas l'ivrogne parce qu'il sort et va s'enivrer. Il est morose, il ne sait pas où il est, il se lève le matin, il a le cafard, la gueule de bois, il sort, s'achète 2 ou 3 bouteilles de bière, de whisky ou autre boisson. Le petit suceur de cigarette, il s'assied, fume, souffle la fumée par le nez comme s'il était une locomotive à vapeur. C'est tout, je ne le blâme pas, c'est la seule joie qu'il connaît. C'est toute la connaissance qu'il a. Il est un porc de nature. Honte à vous qui vous dites chrétiens et vous fiez à ces choses pour la joie. L'évangile du Saint-Esprit est une intoxication parfaite pour chaque homme qui a le capard. Vous prendrez un verre de l'évangile de Jésus-Christ, serez rempli du Saint-Esprit, vous êtes ivre jusqu'à ce que vous quittiez ce monde. Amen. Joie inexplicable et pleine de gloire. Il y a une stimulation constante. C'est une intoxication constante. Vous êtes ivre jour et nuit. Amen. C'est la parole de Dieu. L'Église en vieillissant accepte tout. Ils doivent avoir une petite réception où ils vont sur la plage pour avoir une récréation, une carte de réception, rassemblement de fraternité, c'est vrai, avoir une danse de temps à autre, à la maison d'un membre, quelquefois dans le sous-sol de l'Église. Une danse adoptant, essayant de trouver quelque chose pour se satisfaire. Qu'est-ce qui se passe avec cette grosse bande de cochons de toute manière? Ce sont des porcs pour commencer. Si jamais ils venaient en contact avec Christ, ils auraient tellement de joie que ces choses seraient plus mortes que minuit pour eux. L'Évangile, ivre dans l'esprit, joie inexprimable et pleine de gloire. Ne condamnez pas le pécheur, ayez de la miséricorde envers lui. Laissez-le faire, qu'il fume sa pipe, qu'il boive sa liqueur et qu'il ait sa partie de cartes et son plaisir. Ne le blâmez pas. Revenons chez lui, fatigué, abattu, il veut quelque joie. La chose à faire pour vous, c'est de vivre une vie si sainte que vous puissiez lui prouver que l'Évangile tient 10 000 fois plus que son plaisir. Et que s'il meurt dans cet état, il ira en enfer avec sa boisson. C'est l'intoxication du démon. S'il meurt en tirant sur cette vieille pipe, Dieu est son juge. S'il meurt en allant à la danse ou en se promenant avec des vêtements immoraux, Dieu est leur juge. Mais il y a une chose. Si vous mourrez sous l'onction de la puissance du Saint-Esprit, comme Étienne le fit lorsqu'il regarda la face de Dieu, il dit, « Je vois le ciel ouvert et Jésus se tenant à la droite de Dieu. » Vous êtes destiné au ciel comme un martinet à sa boîte. Amen. Amen. Les esprits séducteurs citant la parole de Dieu. Lâchez cela, sortez. Comment pouvez-vous le faire, frère Branham? Sortez simplement, c'est tout ce que vous avez à faire. Prenez la parole de Dieu. N'essayez pas de fabriquer quelque chose. N'allez pas à l'autel, frappez l'autel, criez, Dieu, donne-moi le Saint-Esprit, Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Il ne viendra pas à vous pendant que vous frappez sur l'autel. Cela ne fera rien de bon. Non, cela n'est pas la manière qu'il vient. C'est en le prenant à sa parole.
Amen.
Regardez Pierre. Pierre était dans une terrible... Il semblait qu'il allait mourir. Il vit venir le Seigneur marchant sur les eaux. Et il dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir. Le Seigneur dit, viens. Maintenant Pierre dit, maintenant, attends une minute. Laisse-moi aller jeûner pendant 40 jours pour savoir si je peux marcher sur l'eau ou non. Seigneur, donne-moi assez de ton esprit que je puisse danser dans l'esprit, parler en langue, dans ce bateau. Alors je peux en sortir. Non, monsieur. Il prit Dieu à sa parole. Lâcha tout et sortit. Dieu l'a retenu près de lui. Que serait-il arrivé lorsque Dieu rencontra Moïse? Il avait dit, Moïse, descends en Égypte et dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et si Moïse avait dit, laisse-moi aller en jeûne pendant 40 jours premièrement, pour voir si j'ai assez de foi pour t'obéir, Dieu. Donne-moi quelque chose d'autre, Seigneur. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi voir si je suis dans l'esprit, premièrement. Moïse ne posa jamais aucune question. Il prit Dieu à sa parole et partit. C'est comme cela que vous devez faire, prendre Dieu à sa parole. Alors vous pourrez savoir, vous pourrez le faire. Il n'attendit pas jusqu'à quelque chose d'autre arrive. Il partit simplement et le fit. Qu'en est-il d'Élie? Quand il descendit du mont Carmel, il avait été là pendant longtemps, il rencontra une pauvre femme veuve. Elle était une étrangère, une gentille. Et lorsqu'il l'a rencontrée, elle ramassait du bois dans la cour. Et Dieu lui dit, va vers la maison de cette veuve. Quel endroit où aller pour un prédicateur? Il va à la maison de la veuve. Que faisait-elle? Elle avait deux bâtons. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je ramasse des bâtons. J'ai juste assez de farine pour faire une couple de petits gâteaux. C'est tout ce qui me reste. Il y a 3 ans que nous n'avons pas eu de pluie. Et elle dit, alors je vais faire ces deux gâteaux de maïs, mon garçon et moi nous allons les manger et mourir. Il dit, fais-moi-en un en premier. Alléluia. Oh, je sais que je suis un peu fou, mais je suis du côté du Seigneur de toute manière. Il dit, fais-moi-en un premièrement, car ainsi dit le Seigneur, vous y êtes. Qu'est-ce que c'est? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pas le royaume de Dieu et un peu de bruit. Pas le royaume de Dieu et une petite émotion. Pas le royaume de Dieu et un peu de ceci ou de cela. Mais Dieu dans sa justice. Alors toutes ces autres choses vous seront données en plus. Mettez-le en premier. Maintenant cette veuve avait entendu que la foi vient en entendant, entendant par la parole. Elle dit, c'est la parole du Seigneur, car c'est un saint homme de Dieu, c'est le prophète de Dieu, et je sais que c'est la vérité, et c'est la parole de Dieu. Maintenant, elle ne courut pas chez le voisin pour lui demander comment faire. Elle ne voulait pas aller partager ça et dire au voisin, dites, qu'est-ce que vous en pensez? Le prédicateur est chez moi, disant ceci. Suzy, que penses-tu de cela? Elle entra et commença à verser. Elle abandonna, elle laissa aller ce qu'elle avait, sachant qu'elle pourrait avoir plus. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est un bon abandon à l'ancienne mode de ce que vous avez. Alléluia! Elle vida, ainsi elle pouvait être remplie. Elle versa toute l'huile qu'elle avait et toute la farine qu'elle avait à ce prédicateur au royaume de Dieu. Et lorsqu'elle versa le tout là-dedans, Dieu descendit, et il remplit le baril de farine et remplit la cruche d'huile. Elle le vida encore sur l'assiette du prédicateur. Dieu descendit et le remplit de nouveau. Il versa là-dedans. Chaque fois qu'elle versait, il remplissait. Je dirais aujourd'hui, si un homme veut se vider de ce non-sens d'interprétation et d'imitation du christianisme et laisser le Saint-Esprit prendre sa place, un réveil commencerait au coin de la 8e rue et de la rue Penn qui balayerait le pays tout entier. Abandonnez les stupidités et revenez à la parole de Dieu. Videz afin de remplir. Vous laissez aller et Dieu va laisser venir. Vous videz et Dieu va remplir. Toutes ces choses insignifiantes. Vous avez ceci à faire, vous avez cela à faire, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Oubliez cela. Videz votre âme de cela. Dites, Dieu, laisse-moi de ce saint, ce jour, être entièrement à toi. Seigneur, je viens avec un cœur brisé. Je viens avec un esprit contrit. Je t'aime. Et tu le sais que je t'aime. Et je veux oublier toutes ces stupidités de jeûne de 40 jours et voir si je peux venir plus près de Dieu et tout ceci. Et cela, c'est tout ce non-sens. Arrêtez cela. Il n'y a rien dans la parole qui dit que vous devez faire 40 jours de jeûne. Rien du tout. Il n'y a rien dans le monde vous disant de jeûner, à moins que Dieu ne vous le dise. Alors, si vous jeûnez, vous n'aurez pas faim, et toutes ces choses. Pendant que vous jeûnez, vous serez joyeux et heureux tout le temps. Il dit, ne paraissez pas devant les hommes comme des hypocrites, avec un visage long et triste. Je fais un jeûne de 40 jours. Mes choses ne me feront plus. J'ai perdu 30 livres, 15 kilos. Ils m'ont dit que je paraîtrai mieux après. Oh, stupidité! Ce sont des esprits séducteurs du démon! Avancez-vous à l'autel et dites, gloire, 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 jusqu'à ce que vous ne puissiez plus dire autre chose. Et ils disent, vous devez parler en langue avant d'avoir le Saint-Esprit. Stupidité! Débarrassez-vous de cela. Enlevez cela de votre système et venez à la parole de Dieu. Il dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si Dieu ne tient pas sa parole, il n'est pas Dieu. Amen. Videz, soyez remplis de nouveau. Amen. Ouh, j'aime cela. C'est ta parole. Dieu l'a dit. C'est vrai. Et quand Dieu l'a dit, Dieu va en prendre soin. Très bien. Toute la préparation que vous faites, toute cette présence à l'église, c'est juste comme à l'atelier de wagons, où ils construisent un grand nombre de wagons de fret ou de passagers. J'avais l'habitude d'y travailler. Ils construisent leurs gros wagons salons et tout cela. Ils y mettent des bois durs, finitions intérieures en acajou partout et tout le reste. Tout cela est très beau. Ils les mettent à l'extérieur sur la voie, et ils sont aussi morts qu'un verrou de porte. La locomotive est là, sans vapeur, elle est juste rangée là. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est du feu dans la bouilloire. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la vapeur. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est que l'Église bouille. La chose bouillante, la plus chaude qu'il y a pour faire bouillir le péché hors de votre vie, c'est l'amour.
Amen.
Et si vous ne pouvez vous aimer les uns les autres, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous n'avez jamais vu? L'amour couvre une multitude de péchés. Tombez en amour avec Dieu. Alors vous vous aimerez les uns les autres et vous aimerez l'Église, vous aimerez la cause, vous aimerez tout ce qui est pieux et vous vous tiendrez éloigné des choses du monde. Les esprits séducteurs qui se promènent disant aux gens ceci, cela ou autre, ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela, c'est parce que cette petite dénomination s'est levée et ils ont une petite révélation où ils disent, bien maintenant je crois qu'un homme, je crois cette chose, je criais, et c'est dans la Bible, c'est vrai, c'est la vérité, mais ils en ont fait une dénomination. Quand vous criez, vous l'avez, mais vous ne l'avez pas. Un autre se lève, il dit, parlez en langue. C'est vrai, c'est dans la Bible. Mais quand vous parlez en langue, vous l'avez. Mais beaucoup d'entre eux ont parlé en langue et ils ne l'ont pas. Voyez-vous, ce n'est pas cela. Non, monsieur. Beaucoup parmi eux disent, bien, nous devons prophétiser. Regardez à ces prophètes ici, avec des cornes sur leur tête, sautant de haut en bas, prophétisant. Et Michée dit, vous mentez tous. Amen, c'est vrai. Dieu ne vient pas comme cela. Dieu vient au cœur sincère, qui vient avec une contrition, un esprit abandonné. Celui qui sème dans les larmes retournera sans doute en se réjouissant, apportant de précieuses gerbes. Amen. Prenez cela comme il faut, mes amis. Tellement de démonologie, des démons travaillant dans les âmes des humains. Regardez où ça porte fruit. Surveillez quelle sorte de vie cette personne vit. Voyez leur manière de réagir. Surveillez leur manière de faire. Voyez ce qu'est leur motif. C'est juste aussi impossible. Et si je vous ai dit que la seule manière, les voitures sont alignées ici. Le ciel est à Charlottetown. Vous ne pouvez marcher. Chaque homme qui traverse la ligne doit porter 5 gallons d'essence. Voilà sa voiture, mais s'il n'a pas d'essence, il ne peut mettre en marche. Bien, c'est exactement et parfaitement comme cela dans le ciel. Si vous mourrez sans Dieu, je me moque de quelle manière vous avez vécu et combien de voitures vous avez construit. Si l'amour de Dieu n'est pas là pour vous tirer dans le royaume de Dieu, vous êtes perdu. Il y a un négatif et un positif. Peu importe combien le positif a de puissance ici, s'il n'y a pas de mise à terre, ça n'allumera jamais. C'est vrai. Vous devez avoir un conduit. Être fiché dans l'amour de Dieu. Oh, frère, quand ce positif et ce négatif se rencontrent, vous avez une lumière, la bonne lumière, à l'ancienne mode de l'Évangile qui s'étend d'un rivage à l'autre. Vous ne l'aurez jamais sans cela. Peu importe combien de sauts et de coups vous faites avec ce positif, vous devez avoir le fil négatif pour allumer la lumière de l'Évangile. Amen. Avez-vous jamais remarqué? Vous installez le fil négatif sur ceci et chaque parcelle va directement en bas à la sous-station, directement à la mise à la terre. Et chaque fois qu'un homme est dirigé et amené au négatif dans la parole de Dieu, ça dirige et met à la terre, au calvaire, là-bas où est l'encre et le poteau d'attache de Dieu, où ils furent amenés pour allumer la lumière de l'Évangile. Amen. Vous savez ce qu'il y a? Les gens dans ces grandes et grosses morgues froides et formalistes ici, prétendant prêcher l'Évangile. Un petit prédicateur est venu vers moi hier. Il appartient à une des plus grandes dénominations qui sont sur la terre aujourd'hui, en dehors des catholiques. Il dit, frère Branham, je suis fatigué, cela me rend malade. Il dit, ils vont nous faire porter des robes et nous faire tourner nos collets à l'envers, à nous les prédicateurs, et nous faire prêcher certaines choses. Et ils vont nous dire quoi prêcher à la chair. Il dit, je ne puis accepter cela plus longtemps. Il dit, que dois-je faire? Dois-je commencer à prêcher l'Évangile? J'ai dit, frère, aussi longtemps que vous serez avec cette dénomination, respectez-la. Vous dites ce qu'ils disent. Mais allez à votre ancien ou votre surintendant d'État et dites, monsieur, je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Voici la parole de Dieu. Si vous voulez me laisser prêcher cela, je resterai dans votre Église. Si vous ne voulez pas, je suis parti. Donnez cela à quelqu'un d'autre. C'est la manière de faire. Ne tergiversez pas. Ne soyez pas négatif. Sortez et dites ce qui est correct. C'est bien. Il dit, frère Branham, pensez-vous que j'aurai une congrégation? Je dis, où est le corps? Les aigles s'assembleront. C'est vrai, ils suivront. Comme l'homme une fois qui voulait faire éclore des poulets. Maintenant, ceci n'est pas une plaisanterie. Je ne le fais pas comme une plaisanterie. Je l'utilise pour amener un point. Il se préparait pour installer ses poules. Il n'avait pas assez d'œufs. Il mit un œuf de canard sous l'une d'elles. Et lorsque tous les œufs éclorent, le canard fut la chose à l'air le plus drôle que les poulets n'avaient jamais vu. Ainsi, la poule gloussait et les poulets venaient. Mais le canard ne comprenait pas ce langage. Aussi un jour, la vieille poule se dirigea derrière la grange. Là, il y avait un étang derrière la grange. Quand ce petit canard sentit cette eau, il partit vers l'étang, vers l'eau, aussi vite qu'il le pouvait. Et la vieille poule criait, « Côte, côte, côte !» Et le petit canard disait, « Quac, quac, quac !» Il ne voyait que l'eau. Pourquoi ? Il était un canard par nature. Quand il sentit l'eau, il ne pouvait en rester éloigné, car il était un canard. Et je dis aujourd'hui, toute personne qui veut réellement trouver Dieu, ils ne laisseront aucune église leur dicter qu'ils ne peuvent ceci, cela ou autre chose. Si vous avez la nature de Dieu en vous, vous irez à la sainteté, vous irez aux choses correctes, vous tiendrez pour les bonnes choses, vous ferez les bonnes choses, vous penserez les bonnes choses et vous vivrez les bonnes choses. Si vous êtes un canard, vous aimez l'eau. Si vous êtes un chrétien, vous aimez Christ. Si vous êtes un démon, vous aimez les choses du diable. Si vous êtes un buzard, vous mangerez des choses mortes. Si vous êtes un porc, vous mangerez du fumier. Où vous tenez-vous aujourd'hui? C'est juste. Si vous déclarez être ici, mangeant les choses du Seigneur, et alors descendre et aller avec le démon, il y a quelque chose qui est faux dans cela. Arrêtez d'écouter ces esprits. Ce sont des démons. Peu importe si vous devez vous tenir seul, les hommes et les femmes qui sont arrivés à quelque chose pour la plupart sont des hommes et des femmes qui se sont tenus seuls avec Dieu. Amen. Regardez Michée, comment il s'est tenu. Pas comme le roc de Gibraltar, mais comme le rocher des âges. Il dit, je ne dirai rien, je me moque de ce que dit le séminaire, je me moque de ce que dit ma congrégation, peu importe ce que dit le roi, peu importe s'il coupe ma tête, je dirai seulement ce que Dieu met dans ma bouche à dire. Il avait raison. Il était juste. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes ne payent aucune attention à ce que le monde a pour vous. Quel traitement il a, quelle inoculation de bactéries ils ont. Ils proclament que si vous joignez l'Église, vous serez correct. C'est une fausse inoculation. Pourquoi? Vous avez toujours la maladie du péché, c'est vrai. Mais je vous dis une chose, frère, qui va vous inoculer contre le péché, c'est de venir au précieux sang de Jésus-Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Cela vous inoculera contre tout péché et vos désirs seront de saints désirs et vous n'aurez aucun temps pour les choses du monde. Prions. Notre Père Céleste, quand tu vois ces esprits séducteurs sur les gens, et sachant qu'ils détestent les choses de Dieu, je prie au Dieu que tu prendras le contrôle de chaque homme et chaque femme présent ici aujourd'hui. Que ce soit le jour, Seigneur, qu'ils réalisent que leur vie n'est pas à la hauteur avec la parole, et qu'ils ont écouté la mauvaise chose, que le démon les a consolés faussement avec ce vieux magazine, True Story, l'histoire vraie, ces vieilles stupidités pourries du monde, de vieux films et cette télévision obscène. Ô Dieu, de telles choses impossibles à regarder pour un chrétien. Dieu, cela nous rend malades. Tu dis que cela t'a rendu malade à vomir. Tu as dit un chien retourne à ce qu'il a vomi et un vieux cochon retourne se vautrer. Un vieux chien va vomir quelque chose. Voyez, un vieux né à moitié, supposé être une personne hypocrite, vient à l'autel comme si elle allait vomir le monde et continuant et retournant manger la chose de nouveau. Ô Dieu, nettoie ta maison, Seigneur. Alléluia. Envoie le Saint-Esprit avec une telle ancienne conviction qu'il enlèvera l'appétit d'un homme, nettoiera son âme et le lavera pour en faire une créature céleste. Donne-lui renouvelle sa jeunesse et son serment. Comme l'aigle, qu'il puisse monter, dépasser les choses de ce monde et jaillir dans le ciel là-bas où il verra les troubles venir à distance. Accorde-le, Seigneur. Tu comparais ton prophète aux leurs, les aigles, qui avaient des yeux d'aigle, pouvant aller très haut et voir les choses longtemps avant qu'elles n'arrivent. Ô Dieu, bénis cette petite église, bénis les gens qui viennent ici, bénis les étrangers dans les portes aujourd'hui, et fais-leur connaître que ce message n'était pas dirigé à une personne en particulier, mais dirigé spécialement, Seigneur, à ceux qui sont profondément dans le besoin, sachant qu'un jour nous devrons nous tenir ensemble au jugement de Dieu et que je serai tenu responsable de connaître la vérité et de ne pas la dire. Père, je prie que ce soit mis dans chaque cœur, dans le nom de Jésus. Avec nos têtes inclinées juste un moment, je me demande s'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait: Frère Branham, je suis fatigué, cela me rend malade, ces petites vieilles choses. J'ai des stupidités qui sont attachées à moi depuis longtemps. Je remets toujours mon tour. Je fais des choses que je ne devrais pas faire. Et je sais que ce n'est pas digne d'un chrétien. Je ne veux pas faire cela. Dieu sait que je ne veux pas. Et je ne veux pas écouter ce vieil esprit plus longtemps. C'est la chose qui m'a gardé si bas toute ma vie, m'empêchant d'avoir le vrai amour et la liberté en Christ. Je veux que vous priez pour moi, frère Branham, que cela me laisse dès aujourd'hui. Voulez-vous lever vos mains? Que toutes les têtes s'inclinent. Que Dieu vous bénisse. Oh my, des douzaines de mains. Des petites stupidités, des petites vieilles choses qui vous font parler ou partir, des petites choses qui perturbent l'Église, vous font vous ranger d'un côté ou de l'autre comme cela. Oh, c'est mauvais. C'est la discorde parmi les frères. Et ne le faites pas, vous ne voulez pas le faire, vous ne voulez pas cela, et que cette petite vieille chose ou autre, cette intempérance vous garde éloigné. Dites: Dieu, je ne veux plus cette chose, j'en suis dégoûté, je suis prêt aujourd'hui à l'abandonner. Je viens, Seigneur, maintenant, et je veux me défaire de tout mon égoïsme. Si mon frère ne me traite pas comme il faut, je prierai pour lui de toute manière. Si mon papa ne me traite pas justement, je l'aimerai quand même. Si ma femme ou mon mari ne me traite pas bien, j'irai humblement devant Dieu. Seigneur, je ne regarde que ton royaume. Je veux que ma pensée soit juste. Je veux que mon cœur soit plein de joie. Je veux fonctionner correctement lorsque les troubles bourdonnent autour de moi. Je veux toujours rester avec mes mains levées et mon cœur pur devant toi. Sachant, Seigneur, qu'un jour je vais te rencontrer. Je veux ce genre d'expérience, Seigneur. Rends-moi ainsi à partir d'aujourd'hui. Si quelqu'un n'a pas levé la main il y a un moment, voudrait-il la lever maintenant? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sœur, donnez-nous une petite note pendant que nos têtes sont inclinées. Êtes-vous vraiment sincère? Présentement? Ne priez pas maintenant. Ce n'est pas le temps de jouer. C'est un temps de recevoir, c'est le temps pour, vous devez l'obtenir. Venez, videz tout immédiatement. Le voulez-vous? Venez donner tout ce que vous avez à Dieu. Dites: Dieu, je n'ai pas beaucoup. Je ne suis qu'une petite ménagère. Je ne peux pas faire beaucoup, Seigneur, mais je peux lire la Bible. Je peux prier chaque jour. Je peux rejeter toutes les saletés qui sont dans ma pensée. Je peux repousser toutes ces choses. Je suis coupable de plusieurs des choses dont le prédicateur a parlé ce matin. Aussi, je me vide de tout cela aujourd'hui. Je n'en veux plus. Et Dieu, remplis-moi d'amour. Remplis-moi de cette chose qui me fera aimer mon plus cruel ennemi. Je le veux réellement, Seigneur. Pendant qu'elle joue ici, voudriez-vous venir maintenant et vous tenir à l'autel avec les autres pendant que nous nous unissons dans un mot de prière? Si vous êtes réellement sincère maintenant, si vous êtes réellement prêt à abandonner cela, vous ne laisserez jamais cet autel aujourd'hui avec cela sur votre cœur. Si vous venez sincèrement et dites: je m'avance ici juste pour me tenir une minute, frère Branham, pendant que vous ferez une prière avec moi personnellement, je veux que vous veniez prier. Voulez-vous venir maintenant? Avec vos têtes inclinées, nous allons nous lever, venir à l'autel. Venez autour de l'autel. Ne passe pas sens t'arrêter près de moi, ô gentil sauveur. Entends mon humble voix, pendant que tu en appelles d'autres. Ô, prends-moi, ne m'oublie pas. Ne me passe pas, ô gentil sauveur. Entends mon humble voix, pendant que tu appelles les autres. Ô, prends-moi, ne m'oublie pas. Peu importe depuis quand vous êtes un chrétien, et que vous avez encore ces petits vieux esprits qui vous parlent, qui vous font errer et vous font parler des autres. Quand quelqu'un vient et commence à parler de quelqu'un d'autre, vous embarquez avec eux et vous les dépréciez. C'est mal, frère. Ne faites pas cela. Cela finalement vous empêchera d'entrer dans la terre promise. S'il vous reste une de ces petites vieilles choses dont vous auriez dû vous débarrasser, si l'amour de Dieu n'est pas réellement dans votre cœur, ne voudriez-vous pas, homme ou dame, vous avancer et dire « Dieu, ici présentement, ce matin, je vais tout déverser, je vais partir de cet autel une personne différente. » Voulez-vous venir? Y a-t-il un pécheur qui n'a jamais accepté Jésus et sait qu'il est un pécheur? Vous ne le connaissez pas comme votre sauveur? Vous dites « Frère Branham, oui, je pensais que j'avais beaucoup de plaisir. » Je vais danser dans les réceptions et toutes ces choses. Je regarde la mauvaise sorte de présentation et je lis la mauvaise sorte de littérature. Je lis de vieux livres d'histoire vulgaire et je crois que j'aime cela. Frère, il y a quelque chose de mal en vous. C'est votre appétit, vous voyez. Dites-moi ce que vous lisez, ce que vous regardez. Quelle musique vous écoutez. L'autre jour, en circulant dans ma voiture, une personne allongea le bras et alluma ma radio. Quelque genre de vieille musique vulgaire en cours. Je dis, fermez cela, je ne veux pas entendre cela. Quelque vieillère de boogie-woogie, il dit, j'aime entendre cela. Je dis, votre nature est mauvaise, vous avez tort. Quand j'étais ici, et quelques jours après cela, sur le flanc de la montagne, aux côtés de la colline à la pêche avec la personne, les petits oiseaux chantaient, les alouettes criaient, le vieux martinet volait haut dans les airs, le rossignol chantait les louanges, et j'ai crié au garçon, j'ai dit, « Regarde, jeune homme, ça, c'est ma musique. Garde cela en marche, c'est ma radio. Dieu les envoie ici chanter pour moi. Cela apaise mon âme. C'est mieux que toute cette supposée musique folle, ces vieux jukebox qui grognent en jouant. On ne peut même plus manger dans une place publique. C'est la diète, le régime du démon. » C'est la maison du diable, toute salle de péché. Es-tu tout englué là-bas, jusqu'à y prendre plaisir? Quand ils mettent de l'argent dans ces vieilles boîtes, et que tout ce bruit insolite en sort, tu prends plaisir à cela? Honte à toi! Tu es un rétrograde, tu es loin de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Si tu connaissais Dieu et le pardon de tes péchés, tu n'écouterais jamais de telles absurdités. Ce serait mort pour toi. Ça te ferait vomir. Tu ne veux pas cela. Ton régime est meilleur que cela. Tu aimes Dieu. Ne viendras-tu pas ce matin t'agenouiller ici avec ceux qui se confessent ce matin? Il y a un homme et une femme qui sont chrétiens depuis des années, qui sont sur leurs genoux. Je ne déchristianise pas, mais ce que j'essaye de faire, c'est de leur dire que le démon qui les poursuit les retient en dehors de la pleine joie. Le Saint-Esprit, c'est la joie. Bien, je me réveille ivre. Je vais me coucher ivre. Je suis ivre toute la journée et ivre toute la nuit. Oh oui, et j'aime cela. Je vais à la pêche, au lancer, jeune homme. Pouvez-vous entendre mon humble cri? Je vais à la chasse et je chante les louanges de Dieu. Je prêche partout où je vais. Ne voulez-vous pas être comme cela, rempli du Saint-Esprit? Cela me stimule. Oh ma! Entendez-les chanter leurs vieilles chansons sales. Vous pouvez alors chanter « Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Quand j'atteindrai ce repos et serai à jamais béni, quand je verrai Dieu en face et être sur son sein béni, je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. » N'allez-vous pas venir avec moi? Je peux me souvenir qu'environ 500 personnes, et que j'en baptisais environ 120, à peu près au même temps de l'année, ici sur le bord de la rivière, quand cette grande étoile du matin va briller là, sur la rivière. Alléluia! Une voix en descendit et parla, elle dit, « Un jour, tu étendras l'évangile à la grandeur du monde. » J'ai dit, « Un pauvre petit garçon de ferme comme moi ne fera jamais cela. C'est la grâce de Dieu. Amen. Oh, qui viendra et ira? Débarrassez-vous de, mettez de côté chaque fardeau. N'écoutez pas ces esprits séducteurs. Venez, écoutez la parole de Dieu. Ainsi dit le Seigneur, bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Inclinons nos têtes pendant que nous prions avec ceux qui sont à l'autel. Chers enfants, je veux que vous vous souveniez de ce matin, le jour où je vous ai dit de mettre de côté chaque fardeau. Ils sont ici pour mettre de côté chaque fardeau et le péché qui si facilement vous enveloppe. Paul dit dans Hébreux au 12e chapitre, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, dans ses prières, disait, « Père, je me sanctifie. » Jésus devint sanctifié pour l'Église. Il aurait pu se marier, mais il ne le fit pas. Il s'est sanctifié. Il dit, « Sanctifie-les, Père, par la vérité. Ta parole est la vérité. » Maintenant, mettons de côté chaque fardeau. Vous avez du caractère. Il y a en vous quelque chose qui vous fait parler lorsque vous devriez vous taire. Oh Dieu, mettez-le là, regardez le feu de l'autel descendre et venir le prendre. Regardez l'amour de Dieu le détruire, regardez tout ce vieil égoïsme, la manière dont vous parliez à votre femme, la manière dont vous parliez à votre mari, la manière dont vous parliez à vos voisins, la manière dont vous parliez des membres de l'Église. Déposez tout cela sur l'autel ce matin et le feu de Dieu descendra et l'enlèvera immédiatement et l'amour divin brûlera à sa place. Si vous êtes malade, déposez cela à l'autel. Dites, Seigneur, c'est là. Crée en moi une puissance de guérison. Voyez ce que Dieu va faire. Dieu le fera ce matin. Notre Père Céleste, nous nous inclinons en ta présence en faveur de ceux qui sont à l'autel. Laisse ta grâce venir sur chacun d'eux, Père. Maintenant, comme il dit, je ne puis le faire pour eux, ils doivent le faire eux-mêmes. Aucun homme ne peut le faire pour eux. Ils doivent le faire seuls. Que leur âme dise en eux, ô Dieu, ce tempérament, je le dépose ici, Seigneur. Je ne le reprendrai jamais. Quoi qu'il arrive, je l'abandonne à partir de maintenant. Ma langue qui prenait si facilement parti avec les commérages, maintenant je laisse cela ici. Je ne la reprendrai jamais. Sanctifie ma langue, Seigneur. Que je sente cet ange venir comme Ésaïe quand il dit « J'ai des lèvres impures, malheur à moi !» Et l'ange vint, prit les pincettes, alla à l'autel, prit un charbon ardent et le posa sur ses lèvres et le sanctifia. Ô Dieu, sanctifie chacun de ceux qui parlent ce matin, qui parlent en mal et sèment la discorde. Accorde-leur, Seigneur. Toutes les maladies qui se sont inclinées ici, dans cet édifice, avec les gens, et qui savent que le démon est vaincu, Dieu, en tant que ton serviteur, je les chasse au nom de Jésus. Fais-le sortir de chaque personne malade, et puis chaque personne qui a des pensées impures, vulgaires, hommes ou femmes, ô Dieu, enlève-leur cela. Tous ceux qui sont ici et essayent de se débarrasser de la cigarette, du petit verre social, des réceptions sociales et des choses mauvaises, ô Dieu, stimule leur cœur par le Saint-Esprit, d'une telle manière qu'il n'ait plus aucun désir pour ces choses. Ils n'auront plus de place. Ils seront si pleins du Saint-Esprit à l'avenir. Dieu, fait de cette Église un buisson ardent. Puisse le Saint-Esprit en faire un tel feu brûlant que le monde va se retourner pour voir la gloire de Dieu. Ô Dieu, débute avec cette petite poignée de gens ici ce matin, environ 200 ici ce matin, accorde-leur, Seigneur. Purifie chaque cœur, chaque méthodiste, chaque baptiste, chaque catholique, chaque presbytérien, chaque pentecôtiste, Seigneur, enlève cela de leur cœur et fais-les venir à toi aujourd'hui. Accorde-leur, Père, je te les remets et te les recommande au nom de Jésus-Christ pour la purification de leurs âmes et la guérison de leur corps. Amen. Je me demande à l'autel, avez-vous laissé votre fardeau? Sentez-vous qu'il est posé là? Soyez le juge, vous êtes celui qui prie. J'ai prêché, vous avez prié. Est-ce que votre fardeau est parti, frères et sœurs? Pouvez-vous réellement le laisser là? Si vous le pouvez, levez votre main. Dites, oui, Dieu, maintenant je le laisse ici. Ma dissemblance, je la laisse ici, à l'autel. Qu'en est-il ici au bout de l'autel, sur la droite, madame? Pouvez-vous laisser ce vieux fardeau posé là et dire, oui, ma foi regarde à toi, ô agneau du calvaire, pendant que nous le chantons ensemble. Ma foi regarde à toi, ô agneau du calvaire, sauveur divin, exauce ma prière, enlève mon péché, que je sois dès ce jour tout à toi. Levons-nous, soyons respectueux, chacun de nous. Écoutez attentivement chacun de vous maintenant. Que personne ne parte, juste, le service n'est pas fini. Je veux que vous compreniez ceci, le caractère sacré, la solennité et le sérieux de ce service. Dans le dédale de la vie, quand le chagrin m'entoure, toi sois mon guide, change ma nuit en jour, essuie mes tristes larmes, ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Ne le chantez pas à votre voisin maintenant. Fermez vos yeux et chantons-le lentement en levant nos mains vers Dieu. Dans le dédale de la vie, quand le chagrin m'entoure, toi, sois mon guide. Change ma nuit en jour et suis mes tristes larmes. Ne me laisse jamais m'éloigner de toi. J'ai un Père là-bas, j'ai un Père là-bas, j'ai un Père là-bas sur notre rive. Un beau jour je le verrai. Un beau jour je le verrai, un beau jour je le verrai sur l'autre rive. Ce jour pourrait être demain, ce jour pourrait être demain, ce jour pourrait être demain sur l'autre rive. Je veux savoir combien ont un père dans l'autre monde. Montrez vos mains. Combien ont une mère dans l'autre monde? Levez vos mains. Combien ont un sauveur dans l'autre monde? Laissez voir vos mains. Ce sera une joyeuse réunion. Ce sera une joyeuse réunion, ce sera une joyeuse réunion sur l'autre rive. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Pendant que nous chantons cela de nouveau, je veux que chacun donne la main à la personne près de lui et dise, frère, sœur, prie pour moi, afin que je te rencontre dans l'autre monde. Ne le faites pas si vous n'êtes pas sincère. Combien veulent se rencontrer? Combien veulent rencontrer là-bas ceux qui sont ici? Nous le voulons sûrement. Maintenant, serrons-nous la main en disant, je veux te rencontrer, frère. Je veux te rencontrer de l'autre côté. Pendant ce temps, chantons, j'ai un sauveur là-haut. Très bien. J'ai un sauveur là-bas. J'ai un sauveur là-bas. J'ai un sauveur là-bas sur notre rive. Un jour, j'irai le voir. Un jour, j'irai le voir. Un jour, j'irai le voir sur l'autre rive. Ne vous sentez-vous pas bien, heureux? Jésus, garde-moi près de la croix, où il y a une précieuse fontaine. À chacun une guérison promise vient de la fontaine du calvaire. Que chacun lève les mains maintenant. À la croix, à la croix, soit à jamais ma gloire, que mon âme enlevée repose par-delà la rivière. À la croix, soit à jamais ma gloire, que mon âme enlevée repose par-delà la rivière. Je l'aime parce que lui m'a aimé le premier et qu'il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, silencieusement, inclinons nos têtes et chacun à sa manière personnelle le loue avec ses mains levées, disant « Merci Seigneur de sauver mon âme, merci Seigneur de m'avoir guéri, merci Seigneur pour ta bienveillance, merci Seigneur pour la douce délivrance, merci Seigneur pour ton salut gratuit, merci Seigneur. » Nous te donnons nos remerciements en offrande, nous te louons parce que tu es si aimable. Tu es le lys de la vallée, l'étoile du matin, la rose de Saron, le Saint-Esprit, celui qui était, qui est, viendra, le grand Alpha et Oméga. Tu es le merveilleux, le prince de la paix, la racine du rejeton de David. Tu es tout, et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous te remercions pour ta parole, car c'est une lumière sur notre sentier. Oh, nous prions, Seigneur, que tu nous permettras de marcher dans la lumière. Accorde-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Pendant que nous serons assis une minute, chantons, nous marcherons dans la lumière. Nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde étincelle, brille autour de moi le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Tous ensemble, les saints, chantons-le. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde étincelle, brille autour de nous le jour, la nuit. Jésus, la lumière du monde. Venez confesser votre roi, Jésus, la lumière du monde. Alors les cloches sonneront, Jésus, la lumière du monde. Chacun, oui, nous marcherons dans la lumière, attendant l'appel. Là où la miséricorde étincelle, brille autour de nous le jour et la nuit, Jésus, la lumière du monde. Cela ne vous réjouit-il pas? Combien se sentent mieux? Levez simplement vos mains maintenant, dites, je me sens vraiment bien. Le Saint-Esprit vous a nettoyé. Maintenant, que ferons-nous? Nous marcherons dans la lumière. N'écoutez pas les « qu'est-ce que la lumière? Ta parole est une lampe. » Alors, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde étincelle, brille autour de nous le jour et la nuit, Jésus, la lumière du monde. Maintenant, n'est-ce pas merveilleux? Il semble que nous ne pouvons plus nous arrêter. Le Saint-Esprit nous retient. Ne sentez-vous pas cela? Il semble que nous ne pouvons. L'Évangile est taché de sang, le sang des disciples morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit ruisselle de sang. Le premier à mourir pour cet évangile du Saint-Esprit fut Jean-Baptiste, mais il mourut comme un homme. Alors vint le Seigneur Jésus, ils l'ont crucifié. Il prêcha que le Saint-Esprit sauverait l'homme du péché. Il y a Pierre et Paul et Jean le divin. Ils donnèrent leur vie pour cet évangile. Ils versèrent leur sang comme les prophètes pour propager la vérité de l'évangile. Ils lapidèrent Étienne, ils prêchaient contre le péché, ils les contredit, ils lui brisèrent la tête, ils rejoignirent les autres qui donnèrent leur vie. C'est taché de sang, oui, c'est taché de sang, cet évangile du Saint-Esprit est taché de sang. Le sang des disciples, mort pour la vérité, cet évangile du Saint-Esprit est taché de sang. Il y a des âmes sous l'autel criant, quand puniras-tu ceux qui ont mal fait? Mais il y en aura d'autres qui donneront leur vie, car cet évangile est inondé, écarlate. C'est taché de sang, oui, c'est taché de sang. Cet évangile du Saint-Esprit est taché de sang. Le sang des disciples morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit est taché de sang. Je serai prêt à retourner à la chair. Amen. Oh, comme c'est merveilleux. Mes frères donnent leur vie. Il y en aura plus qui le feront. Ne vous inquiétez pas. Nous arrivons à la démonstration finale. Vous devez ou entrer ou sortir. Ils s'affilient tous maintenant dans le concile des églises. Et tous y entrent. Ils s'agglomèrent tous ensemble. Et il y en aura d'autres qui donneront leur vie pour cet évangile du Saint-Esprit et son flot nettoyant. Je sens l'enlèvement juste au-dessus de l'Église. Oh, cela me fait me sentir si bien. Tous les péchés sont sous le sang. Vous voyez, le Saint-Esprit aime la parole. La parole, c'est ce dont le Saint-Esprit se nourrit. Vous voyez? Oh my, cela descend parmi les gens, lave leurs péchés, enlève leurs maladies et leurs tristesses, les rend ivres, aussi ivres que possible, ivres du Saint-Esprit. L'amour s'échappe de mon cœur. Peu importe ce qu'une personne a fait, c'est pardonné. Le plus mauvais ennemi, c'est fini. Quiconque a parlé et dit quoi que ce soit, je souhaite que cela soit disparu, complètement lavé maintenant. Il est taché de sang. Oui, il est taché de sang. Cet évangile du Saint-Esprit est taché de sang. Le sang des disciples morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit est taché de sang. Oh my, c'est merveilleux. Quel merveilleux temps pour vous. Quel merveilleux temps pour moi. Si nous nous préparons pour Jésus notre roi, quel merveilleux temps ce sera. Vous aimez cela, tout le monde ? Quel merveilleux temps pour vous, quel merveilleux temps pour moi, si nous nous préparons pour Jésus notre roi, quel merveilleux temps ce sera. Je sens comme un réveil à l'ancienne mode dans l'Église. Le sentez-vous? Juste un bon vieux nettoyage et brossage, un temps merveilleux. Ne vous sentez-vous pas bien? Oh, je le louerai. Je le louerai, louange à l'agneau qui est mort pour le pécheur. Chantons cela à tout le monde. Le savez-vous? Je le sais, combien le savent? Vous allez m'aider à le diriger, frère Neville. Et vous tous, maintenant, levez vos mains, chantez-le avec moi. Louange à l'agneau tué pour les pécheurs. Le peuple lui donne gloire, car son sang a lavé nos souillures. Maintenant, tout le monde, allons-y. Je le louerai. Je le louerai, louange à l'agneau tué pour les pécheurs. Le peuple lui donne gloire, car il a par son sang lavé nos souillures. Ville toute de perles, j'ai une maison, une harpe et une couronne. Maintenant je surveille et attends, car Jean a vu descendre cette ville. Maintenant levons-nous tous. J'espère que vous vous sentez bien. Gardez en mémoire le service de ce soir. Maintenant, nous voulons chanter notre bonne vieille chanson de clôture. Au nom de Jésus incliné, tombant prostré à ses pieds. Très bien, maintenant tous ensemble. Au nom de Jésus incliné, tombant prostré à ses pieds, roi des rois, nous le couronnerons dans le ciel lorsque notre voyage sera terminé. Précieux nom, ô si doux, espoir des cœurs et joie du ciel. Précieux nom, ô si doux, espoir des cœurs et joie du ciel. Quel matin merveilleux, quel temps sublime. Inclinons nos têtes juste un moment. Que chacun regarde directement à Christ, votre Sauveur, en silence. Je veux que vous le remerciez et le louiez. Dites, Seigneur, je te remercie tellement pour avoir sanctifié mon âme. Je te remercie aussi pour tout ce que tu as fait pour moi. Que ton Saint-Esprit demeure sur moi pendant ce jour. Seigneur, guide-moi, dirige-moi, bénis-moi. Que Dieu vous accorde cette bénédiction, c'est ma prière. Maintenant, pendant que nous inclinons nos têtes, frère Neville va terminer par un mot de prière.